Philippe Charrue, vous êtes jésuite et vous enseignez au Centre Sèvres, vous y dirigez le département esthétique et vous avez publié de nombreux ouvrages de référence sur l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. Philippe Charrue, comment, pourquoi cette passion pour la musique ?
Elle commence très tôt, puisque j'ai commencé à faire de la musique vers sans doute l'âge de 3 ans, 3-4 ans. Et voilà, à l'époque, m'a-t-on dit, je cherchais sur le piano à reproduire les chansons que j'entendais. Voilà, ça a commencé comme ça. Et à cette époque-là, bien évidemment, je ne me posais pas toutes les questions philosophiques ou théologiques qui sont venues après.
Et est-ce qu'il y a des souvenirs musicaux ?
Ah oui,
des grandes émotions musicales.
Oui, je me souviens. Donc quand j'étais tout enfant, j'ai peut-être 4 ans, 5 ans, j'avais imaginé un petit accompagnement pour les chansons que je jouais. Et je me souviens très bien que certaines formules d'accompagnement étaient agréables à l'oreille, mais d'autres, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et maintenant, je sais très bien ce qui n'allait pas, parce que j'ai fait des études d'harmonie depuis. C'est un souvenir qui est encore là. Je me souviens très très bien de l'accompagnement que j'avais imaginé. C'est des choses amusantes.
Et on peut dire comme ça, quand vous regardez votre enfance, votre adolescence, vous êtes né dedans ?
Ah
Vous
oui, je
êtes
suis
né
né
dans
dedans.
la musique ?
Oui, c'est sûr, je suis né dans la musique. Ouais. Oui, j'ai jamais décidé d'être musicien. C'est une chose que je me suis dit un jour, ça.
Pourquoi ?
Parce que ça commençait tout jeune et qu'à l'époque où ça commence, on se pose pas de questions. J'ai commencé à jouer de la musique parce qu'il y avait un piano à la maison. Et bon, c'est vrai que dans ma famille, on fait de la musique. J'ai un grand-père qui faisait de la composition musicale. Donc il y avait une atmosphère musicale. Et c'est pas une décision. Ça vient comme ça. Simplement, on découvre peu à peu qu'on est fabriqué comme ça, qu'on a une sensibilité, puis que voilà, on a un professeur qui vous fait jouer, et puis après on joue devant un petit public, et après un plus grand public. Mais ce n'est pas, ça vient naturellement.
Alors vous êtes devenu jésuite
Oui.
et vous n'avez pas abandonné la musique, au contraire.
Non, je n'ai pas abandonné. C'est quand je suis rentré dans la compagnie de Jésus, mon père maître m'avait dit d'ailleurs, si un jour la compagnie vous demande d'aller au conservatoire, vous irez au conservatoire. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors là, j'ai rencontré des grands musiciens, des maîtres qui m'ont marqué à vie. Jean Langlais en particulier, qui était mon maître d'orgue. Et puis j'ai eu la grande chance de faire la classe d'analyse musicale de Claude Baliff au conservatoire, qui est une personnalité merveilleuse au point de vue musical, mais une grande culture aussi. Il nous a tous marqués, ses élèves. Il avait un sens de la musique. Il y a un type de rapport à la musique chez Baliff qui lui était propre, qui nous a transmis. Moi, je me suis trouvé très, très à l'aise.
Alors vous dites, Philippe Charrue, un type de rapport à la musique. Est-ce que c'est là le point de départ de vos études sur la musique, du lien entre théologie et musique?
Je crois que ça a commencé pour moi bien avant. J'ai commencé à lire des ouvrages sur la musique, d'histoire, mais aussi un peu d'esthétique, disons. J'avais 15 ans, 16 ans. Et c'est en fait là, je crois, que des questions sont venues.
Quelle question?
Quelles questions? Je crois que quand on peut jouer de la musique avec un souci d'expression, avec une musicalité, comme on dit, mais sans pousser plus loin le questionnement sur pourquoi une œuvre musicale se présente telle comme elle se présente, toutes les questions viennent à ce moment-là au niveau de la conception de l'œuvre, de la forme, comme on dit. Moi, je me suis beaucoup intéressé à ces questions de forme très, très tôt en définitive. Je pense que des questions sont venues autour effectivement du mouvement. Comment on fait du mouvement? Comment on fait du mouvement? Comment une œuvre va d'ici à là? Comment ce mouvement est conduit?
Alors, vous dites dans un de vos livres qu'il n'y a pas d'expression religieuse sans musique.
Oui.
Expliquez-nous.
Oui, bah écoutez, il suffit d'ouvrir un petit peu ses oreilles à des musiques du monde entier, dans toutes les cultures. Et vous remarquerez que dans toutes les cultures du monde et dans toutes les religions, il y a de la musique. Et il y a de la danse, d'ailleurs. Il y a de la musique et de la danse. Voilà. Donc, pourquoi? La musique, c'est d'abord un fait anthropologique. Bon, c'est une idée que je défends fortement. C'est un fait anthropologique. Là où il y a hommes et femmes, on chante et on danse. Parler et marcher. Un fait anthropologique. La musique accomplit en quelque sorte ces données-là. Toute musique est danse et chant. Après, sous ce mot danse et chant, on peut décliner les choses. Donc, si les religions sont des voies, disons, d'expression de la totalité de la personne par rapport à un transcendant, nommé ou pas, etc., eh bien, si c'est l'expression de toute la personne, eh bien, inévitablement, on chante, on danse. Si vous êtes amoureux, vous chantez, vous dansez, veut dire d'une manière ou d'une autre. Voilà, et ceux qui ne le sont pas par tempérament, le jour où ils sont amoureux, au moins pendant un certain temps, on peut l'espérer, quelque chose de cet ordre-là se libère. On devient poète, comme on dit. Ben, oui, bien sûr, les mots de tous les jours n'y suffisent plus. Je dis, il n'y a pas effectivement d'expression religieuse sans musique. à cause de cela, tout simplement.
Vous, dans votre dernier livre, votre dernier livre qui s'appelle « Quand le lointain se fait proche », la musique, une voie spirituelle. Oui. La musique est-elle une voie spirituelle ?
Oui, c'est ce que j'essaye de montrer, mais je pars de cet enracinement anthropologique. Ça me paraît tout à fait fondamental. Autrement dit, ce n'est pas une thématique qui fait qu'une musique serait une voie spirituelle. C'est la musique comme telle, comme fait anthropologique, un peu de ce que je viens de dire avant. S'il est vrai que le religieux, oui, ouvre une voie ultime, en quelque sorte, l'expression de la totalité de la personne, effectivement, chant et danse sont convoqués. Il faut partir de là, je crois. Alors après, bien sûr, est-ce qu'il y a une spécificité d'une musique qui se réclamerait d'une voix chrétienne, d'une voix évangélique, disons ? Alors je le pense, oui, bien sûr, mais il faut partir de là. Sinon, on risque fort de verser dans beaucoup d'illusions. C'est mon souci, en fait. J'ai le souci d'un discernement. Est-ce qu'il est possible de discerner et comment ? Est-ce qu'on a des critères de discernement pour voir si on n'est pas dans l'illusion ? Quand on dit, par exemple, moi, j'ai pris en écoutant la musique, je veux bien, mais qu'est-ce que ça veut dire ? J'y regarde à deux fois. Comme tout acte religieux, on voit les fruits que ça porte. On n'est pas sans critère de discernement.
Moi, j'ai entendu aussi souvent chanter, c'est prier deux fois.
Oui.
Qu'en pensez-vous ?
Je sais que saint Augustin qui l'a dit, quand il a un très beau passage, Augustin, sur le jubilus, bon, c'est-à-dire la jubilation, c'est de Alléluia, on dit c'est-à-dire c'est quoi ? C'est tout et rien, mais bon, il n'y a plus de mots. En ce sens, je crois que c'est vrai, il y a quelque chose qui dépasse les mots, on peut dire. Disons que le concept, et qui peut se dire par le chant, et qui peut se dire par le geste du corps et de la danse, certainement. Prier deux fois, oui, je ne sais pas. Bon, j'écoute de la musique pour prier, peut-être, pourquoi pas, mais qu'est-ce que ça produit dans la durée ? C'est tout simple, en définitive. Je crois que c'est tout simple, mais il faut se poser la question. Là, le grand danger, en fait, c'est de vivre dans une bulle imaginaire. Alors, on prie, mais on se parle à soi-même. Alors, c'est ça qu'il faut quand même bien essayer d'être prudent avec ça, quoi. Or, la musique, par sa puissance même, disons, de mobilisation de toutes nos capacités, peut nous enfermer dans une magnifique petite prison, quoi. Mais quelle est l'expérience d'une altérité qui survient dans ma vie ? Ah, ça, c'est une autre question. Alors, je pense que les arts, dont la musique, sont des voies, justement, qui nous conduisent, qui peuvent nous conduire à cette attitude intérieure de pacification et d'ouverture, et de déprise, qui nous dispose à quoi ? Ben, à recevoir ce qui nous sera donné par des voies que nous ne connaissons pas, et quand nous ne savons pas. C'est une voie qui nous dispose à. Il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a la musique, c'est la même chose. Il y a des musiques, de fait, qui sont peut-être plus aptes à nous introduire dans ces attitudes que d'autres. Mais à un moment donné, je suis en attente de ce qui peut survenir. Je pense que c'est ça, en définitive. C'est-à-dire ce carrefour où on se laisse peu à peu acheminer à cet ouvert d'une présence qu'on ne se donne pas soi-même.
Pour terminer, Philippe Charrue, il y a une question que vous posez dans votre livre. Peut-on établir une parenté intérieure entre le chemin qu'emprunte en nous la musique et celui qu'emprunte la parole de Dieu ?
Oui, il y a une parenté, oui, au sens où je parlais tout à l'heure, danse et chant. Si vous lisez l'Évangile, eh bien vous verrez qu'à toutes les pages de l'Évangile, on est convoqué à en entendre et à se tenir debout. La résurrection, c'est se tenir debout. Quand Jésus dit « prends ton grabat et marche », ou « va », etc. Il y a une mobilité extrême. On est remis dans notre humanité sur pied, quoi. Et la parole, c'est-à-dire on écoute et on chante et on répond. Donc, parenthèse, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a, je crois que ces grandes données anthropologiques qui sont réclamées sur la voie musicale, on voit aussi que c'est là que la parole de l'Évangile intervient pour ouvrir nos oreilles, nous mettre debout et nous permettre d'entrer en écoute et en parole. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On se sent une parenté. C'est toujours le souci de laisser place et de plus en plus à ce qui peut survenir en moi et qui n'est pas de moi.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Philippe Charrue ?
Il y aurait à dire, je parle de ça dans mon livre, il y a l'abîme du haut et l'abîme du bas. Je crois qu'il y a par le discernement tout à l'heure, il y a des musiques qui peuvent nous conduire vers des espaces un peu éthérés, une suspension, c'est-à-dire justement on nie l'histoire, on nie l'espace, on nie le corps en définitive. Au contraire, il y a des musiques qui nous enferment dans un peu de fascination de la mort, quoi, voilà. Alors, entre les deux, ces deux abîmes, d'en haut et d'en bas, la voie, c'est quelle voie? C'est la voie du Verbe fait chair. L'incarnation est évidemment le critère ultime, hein, de la voie ultime en définitive. Le Verbe s'est fait chair. Ça veut dire que la chair est capable de dire Dieu. Il est de l'itinéraire de Dieu vers nous, disons, d'inventer dans l'histoire et pour chacun, chacune, des voies d'incarnation. Alors l'art, les arts, la musique, bien sûr, et toute forme d'expression humaine a à faire avec cela. C'est-à-dire, bien, on dit souvent l'art nous élève ou je ne sais pas quoi, bon peut-être, moi j'aime bien aussi qu'il nous ramène au ici et maintenant et dans mon corps, quoi. Une manière d'habiter le monde, d'habiter mon corps. Alors c'est absolument le contraire d'une évasion. Alors les grandes œuvres, je pense, nous apprennent à voir et à entendre. C'est la voie de l'incarnation, ça je crois que c'est absolument fondamental. Il faut croire que le Verbe s'est fait chair. Et alors, jusqu'où aujourd'hui veut-il s'incarner? Qui peut le dire?